RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Et oui, le Tour de France qui fait escale à Marseille ce soir au bord de la Méditerranée avant de partir vers Montpellier demain. Et au bord de la Méditerranée, le plus rapide, c'est évidemment Marc Cavendish. On va y revenir dans quelques instants avec nos débats, avec Cyril Guimard, avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Mais avant cela, c'est l'heure du Journal des Sports. Journal des Sports, deuxième édition, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, bah oui, on va y revenir parce que il est véritablement le plus rapide. On attendait la confirmation. Il est décidément le plus rapide. Personne ne lui arrive à la cheville, Cavendish.
Évidemment, Marc Cavendish, surtout lors d'un sprint massif, Christophe, comme c'était le cas à Marseille aujourd'hui. 24e étape remportée dans la carrière du Britannique sur le Tour de France. Simon Gerrans est toujours en jaune. Une étape à nouveau marquée par les chutes, dont une dans l'emballement final. Thibaut Pinot a réussi à l'éviter.
Juste derrière, donc j'ai pu échapper. C'est vrai que dans les derniers kilomètres, on prend ses distances avec des coureurs devant, car ça chute très souvent sur le tour, donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas avoir peur d'être un peu derrière pour éviter les chutes, parce que c'est dommage de chuter et puis ça perd le tour comme ça. Donc il y a Nasser qui est tombé, j'espère que ça ira.
Nasser, c'est Nasser Bouhanni, pris dans cette chute. Des nouvelles rassurantes concernant le sprinter. Le médecin de son équipe, la FDJ.fr, s'est montré rassurant. Quelques contusions et il repartira demain pour la 6e étape, 176 km en trek, en Provence et Montpellier, à vivre toute l'après-midi dans l'intégral tour avec Christophe Cessieux et la Dream Team RMC Sport, le direct et les réactions directes de la ligne d'arrivée pour ne rien rater de la grande boucle. Deux autres moyens, rmcsport.fr et l'appli RMC Sport pour smartphone. Elle peut devenir la troisième française à remporter un grand chelem. L'heure est à l'optimisme concernant Marion Bartoli. Elle disputera demain sa demi-finale à Wimbledon face à la Belge Kirsten Flipkens, la Belge moins bien classée, mais pas question de s'emballer pour la française.
Une joueuse qui est plus loin que mon classement, c'est forcément étonnant de la retrouver en demi-finale, mais elle a battu Petra Kvitova qui a gagné Wimbledon, donc c'est une joueuse qui est extrêmement dangereuse et je ne l'ai jamais affrontée, donc ça sera aussi encore un autre piège. Mais c'est vrai que c'est un joli clin d'œil de rejouer une Belge en demi-finale 6 ans plus tard, c'est rigolo.
Et 6 ans plus tôt, la Belge, c'était Justine Hénin en demi-finale de ce tournoi de Wimbledon. Le direct, c'est chez les hommes avec les quarts de finale. On sait que Juan Martín Del Potro et Novak Djokovic sont d'ores et déjà qualifiés. On retrouve Eric Salio en direct de Wimbledon pour RMC Sport. On vous avait quitté tout à l'heure avec Andy Murray en difficulté. Ça va un petit peu mieux face à Fernando Verdasco.
Oui, mais il est toujours sous pression, l'Écossais, puisqu'il est mené 2-1. Il y a 3-2 dans le 4e set pour Verdasco. Et Andy Murray vient d'effacer il y a quelques minutes 2 balles de break qui, croyez-moi, étaient cruciales. Mais bon, Murray est toujours en vie, si je puis dire, et on sait que son éventuel adversaire en demi-finale serait le Polonais Jerzy Janowicz, celui qui avait enflammé Bercy au mois de novembre. Janowicz qui a sorti son pote Kubot, 7-5, 6-4, 6-4.
Merci Eric Salio, on vous retrouve tout au long de la soirée et évidemment demain pour suivre la demi-finale de Marion Bartoli. RMC bouleverse ses programmes, match à suivre à partir de 14h avec notamment Patrice Dominguez, membre de la Dream Team RMC Sport. Pas de dépaysement pour Laurent Blanc en football, il étreint son nouveau maillot d'entraîneur du PSG à Clairefontaine comme c'était le cas en équipe de France, le camp des loges étant en travaux. Ce matin en conférence de presse, il a rassuré les supporters sur le cas Thiago Silva. Il balaye d'un revers de main les rumeurs de la presse espagnole faisant état d'une offre du FC Barcelone pour le défenseur central et capitaine.
J'ai eu Thiago Silva au téléphone hier, je peux vous dire qu'il se sent parisien. Il vient de terminer le 30 juin par une victoire de la Coupe des Confédérations. Je l'ai eu hier après-midi pour rien vous cacher. Et donc on est en train d'y préparer un programme individualisé comme beaucoup de joueurs cette année au Paris Saint-Germain pour la reprise. Et c'est un joueur que j'ai senti concerné pour la saison prochaine.
Laurent Blanc au micro RMC Sport de Camille Gelpi. Autre nouvel entraîneur qui découvre son groupe en ce moment, c'est René Girard à Lille, résigné quant au départ de l'arrière-gauche Lucas Digne, et il repousse en même temps l'hypothèse Éric Abidal pour le remplacer.
Bon, je ne sais pas si c'est où en sont les discussions, tout ça, mais bon, je pense qu'il fait partie des potentiels partants et ça c'était acquis au départ. Maintenant, il ne faut pas empiler les joueurs non plus. Éric est un merveilleux joueur, on le sait, mais aujourd'hui, il n'est pas prétendant au poste d'arrière-gauche au LOSC.
René Girard avec Jean Baumel, correspondant RMC Sport dans le Nord. Et concernant le dossier Lucas Digne, c'est une information RMC Sport de Mohamed Bouafsi. Le PSG a repris contact avec l'agent du joueur, actuellement concentré sur le mondial des moins de 20 ans. Il est en discussion avancée avec Monaco, mais pourrait privilégier le club de la capitale. Enfin, toujours selon RMC Sport, l'officialisation de l'arrivée de Jérémy Toulalan à Monaco pourrait se faire demain. Toute l'actualité du Mercato à retrouver en temps réel sur rmcsport.fr et ce soir dans l'After à 21h avec Florent Gautreau. Le Paris Levallois continue sa refonte, c'est du basket après l'arrivée de Jacques Monclar, membre de la Dream Team RMC Sport, au poste de directeur sportif. C'est désormais Grégor Beugnot qui s'est engagé comme entraîneur, champion de France en 2012. Il différencie son arrivée à celle potentielle d'investisseurs qatariens.
Si ça avait été la priorité, à la limite, J'attendais 6 mois en restant au chômage et j'attendais qu'ils viennent me chercher plus tard. C'est une éventualité, ça peut se faire, tout le monde en est conscient. J'ai refusé certaines propositions parce qu'il n'y avait pas de projet. Venir aujourd'hui pour jouer mon Vatou sur 1 an ou 2 sans qu'il y ait un projet derrière, ça me fait trop rire. Je suis un coach, c'est pas ça du tout ici, c'est un vrai projet.
Grégoire Bogneau, joint par Nicolas Paolorsi pour RMC Sport, 19h13 sur RMC, lors de retourner à Marseille et retrouver Christophe Cessieux pour l'intégral tour.
Effectivement, Jean-Louis, nous sommes toujours à Marseille, ici, lieu d'arrivée de cette 5e étape du Tour de France qui a donc été remportée par Mark Cavendish. Nous allons y revenir. Et puis, n'oubliez pas, demain, si vous êtes passionné de tennis, si vous aimez Marion Bartoli, eh bien, vous aurez l'occasion de l'encourager sur RMC puisque nous bousculons nos programmes et dès 14h, nous serons en direct dans l'intégral sport pour vivre à la fois la 6e étape du Tour de France et pour vivre cette demi-finale de Marion Bartoli. Tout cela demain à 14h. En attendant, c'est donc l'intégral tour de retour avec Cyril Guimard, le druide qui est en pleine forme quand il voit les sprinteurs, les tueurs du peloton se disputer de telle manière, il est ravi. Salut Cyril.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Thierry Bourguignon, lui, il aimait pas trop frotter, mais enfin, il est toujours avec nous quand même. Il aura son œil acéré sur ce qui s'est passé tout à l'heure dans le sprint. Salut Thierry.
Oui, bonsoir. Vous m'avez pas encore lâché, hein, même si ça frotte, mais je suis toujours là.
Très bien. Et puis Luc Leban va nous rejoindre dans un instant. Tout de suite, on revient donc sur le direct. C'était tout à l'heure sur l'antenne d'RMC avec cette victoire de Mark Cavendish, 24e victoire d'étape sur les routes du Tour. C'est tout simplement énorme. La grande bagarre du sprint va pouvoir se lancer dans quelques instants. Greipel est bien placé, les hommes de Cavendish également sont là pour le protéger. Bref, ça va être un sprint royal, Fred.
Encore deux équipiers à 800 mètres, 500 mètres maintenant, deux équipiers pour emmener Mark Cavendish pour le propulser vers une nouvelle victoire d'étape. Gerd Stegman, c'est le dernier poisson pilote pour lui, alors qu'un coureur de l'équipe Lotto vient de prendre la tête à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Le sprint est lancé par l'intermédiaire du grand belge Gerd Stegman avec son leader Mark Cavendish dans la roue. Mark Cavendish qui, ça y est, prend la roue et lance le sprint à 200 mètres de la ligne. Mark Cavendish, tel un bolide, qui se met en position de profil, yes, idéal pour remporter sans aucun problème sa première étape sur le Tour de France.
Et derrière, chute au milieu de peloton.
On est tombé avec peut-être Nasser Bouhanni qui a été pris dans cette chute. Une chute monstrueuse, pendant qu'à l'avant, on s'expliquait entre pur sprinter. Et bien voilà, la première semaine du Tour de France est fidèle à elle-même.
RMC Intégral Tour.
Voilà, Fred Adam le disait en conclusion, la première semaine du Tour est fidèle à l'habitude, à savoir des étapes qui s'achèvent au sprint et des étapes qui s'achèvent également par des chutes. Il y en a eu deux demain. On prendra tout à l'heure des nouvelles de Nasser Bouhanni, qui a été l'une des principales victimes de cette gamelle intervenue donc dans l'emballage final. Mais devant, eh bien, Mark Cavendish cette fois-ci a évité la chute, a évité les incidents techniques pour remporter sa 24e victoire sur les routes du Tour. C'est tout simplement énorme. Lui qui a débuté le Tour de France en 2007, il est là tous les ans. Chaque fois qu'il y participe, il remporte au moins deux étapes, donc déjà une dans la boîte, peut-être une autre demain. On va en parler avec Cyril, avec Thierry, avec Lucho. Cyril, dans ce genre de sprint, quand il est bien lancé par ses coéquipiers, il est imbattable et va le rester encore longtemps, hein, parce que
cette pénalité, c'est impressionnant. C'est vrai qu'il n'a pas 40 ans. Hein.
Non, il a 28 ans. C'est un jeune homme encore.
C'est encore un jeune homme et il est maintenant au sommet de son art, sur le plan physique d'une part, mais également au niveau du métier. Et puis il a eu du mal un petit peu en début de saison à régler cette équipe pour lui emmener les sprints. Plusieurs fois, il a été un petit peu bougon parce que c'était pas ce qu'il avait l'habitude d'avoir les années précédentes, et surtout à la Sky. Et donc là, il s'est retrouvé avec une équipe maintenant qui est parfaitement bien rodée. Et quand il est lancé, lâché, je vais dire aux 200 mètres, aujourd'hui personne ne peut le remonter ou leur ferait vraiment un gros vent de face.
Mmh. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'il est le plus fort? C'est quoi? C'est qualités naturelles ou alors c'est...
Oui, non, ce sont des qualités innées. Les qualités de sprinter, on les invente pas.
Ouais. On ne devient pas sprinter.
Non,
on
ne devient pas sprinter parce que
on peut travailler dans le contre-la-montre, on peut devenir un meilleur rouleur, mais
on peut augmenter sur le contre-la-montre. Enfin, dans tous les autres domaines, on peut augmenter par l'entraînement, on va dire sa VO2 max, c'est-à-dire sa consommation maximale d'oxygène, c'est-à-dire augmenter la cylindrée de son moteur. Le sprint, c'est c'est lié à la décharge d'adrénaline, mais il faut aussi, sur le plan physique, avoir beaucoup plus de fibres rapides que de fibres lentes, car on n'a pas la même structure musculaire. Les sprinters ont pratiquement les deux tiers de leurs fibres musculaires qui sont des fibres rapides. C'est-à-dire qu'elles ont des capacités anaérobies absolument extraordinaires. En règle générale, ils ont aussi des muscles très toniques, et donc ils ont une puissance explosive extraordinaire. Et Cavendish fait partie de ces super doués du sprint.
Voilà. Thierry, pour toi, c'est le plus grand, c'est le plus fort de tous les temps, Mark Cavendish. Bon, évidemment, c'est toujours difficile de comparer les époques, mais un garçon comme Darrigan, un garçon comme Cipollini, est-ce qu'ils étaient du même niveau finalement que Cavendish?
Bon, du même niveau, je pense que c'est à peu près similaire. Mais là, franchement, comme disait Cyril, il n'a que 28 ans. Que 28 ans, déjà 25 étapes sur le tour, il risque de ne pas s'arrêter là. Hein, puisque
non, il peut aller jusqu'à 40.
Année, c'est... Oui, voilà, parce que aujourd'hui, on va quoi cette année, il va encore en gagner 5, voire 6. Et puis il en a encore pour quelques années.
Alors tu disais
c'est un grand, et puis quand il gagne bien, il gagne pas avec un centimètre.
Ah oui, c'est ça, là il n'y avait pas un demi-boyau d'écart, il les a tous laissés à une longueur. Ça doit être déprimant quand même pour les adversaires de Cavendish, hein, quand ils voient une telle domination. Cyril, ça fait mal au moral, hein, pour Greipel et les autres. Ils se disent que pour le battre, il faut qu'il se passe quelque chose d'autre dans le sprint, parce qu'à la régulière, il est imbattable.
Bien, lorsqu'il est emmené, hein, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, lorsqu'il est emmené comme ça et lâché à moins de 200 mètres de la ligne, ça n'est pas possible de pouvoir le remonter. Donc, si on veut avoir une chance de le battre, il faut qu'à un moment ou à un autre, il perde des équipiers beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se retrouve esselé aux 300 ou aux 400 mètres. Et encore, c'est pas toujours facile de le battre, parce que c'est arrivé, on l'a vu d'ailleurs sur le Tour l'an dernier, où il se retrouvait très rapidement sans équipier, parce que beaucoup d'équipiers travaillaient aussi pour les deux leaders de l'équipe, c'est-à-dire Wiggins et Froome, et donc il était souvent un petit peu seul. À ce moment-là, il se mettait dans la boîte, il attendait, il venait sauter pour finir. Mais lorsqu'on joue en deuxième rideau dans la boîte, eh ben la boîte elle s'ouvre pas toujours obligatoirement, et là vous pouvez vous faire battre. Mais dans un sprint comme aujourd'hui, je pense que pour tous ses adversaires, les Greipel, Duggan Kolb, Kittel n'était plus là puisqu'il avait été victime d'une chute dans la montée de la Gineste, il y a un sentiment d'impuissance et par voie de conséquence d'admiration aussi pour les qualités du Cav.
Alors tu disais tout à l'heure que il râlait en début de saison parce qu'il avait peut-être pas tous les équipiers à son service. Aujourd'hui il y a des grands noms de l'équipe qui se sont mis au service de Cavendish, notamment Sylvain Chavanel, et je suis peut-être pas d'accord avec toi, parce que l'année dernière, rappelle-toi, il était pas très heureux de sa situation, Mark Cavendish, tout tourné autour
du maillot jaune.
On a même l'impression qu'il traînait sa misère, mais aujourd'hui il a retrouvé le goût au vélo, le goût à ses sprints. On le voit beaucoup plus souriant que les années précédentes, parce que bon, on peut pas dire que ce soit un garçon facile d'accès, hein. c'est un cabochard, tête de cochon.
Oui, bah, il traînait sa misère, il a gagné combien d'étapes l'an dernier, malgré ça il a quand même remporté ses 4 victoires.
Oui, mais presque tout seul,
un peu sur le final, Wiggins de temps en temps, les équipiers essayaient une fois que le tour était fini, enfin pour le classement général, qu'il n'y avait pas d'enjeu. Même Wiggins, on l'a vu des fois se mettre en tête au kilomètre et emmener Cavendish. Oui, c'est vrai qu'au début de l'année, d'abord, quand on rentre dans une équipe, il faut s'imposer. Il faut imposer son caractère, son charisme, et puis s'imposer aussi physiquement. Et il faut pas. Attendez, on ne devient pas chef, on ne devient pas patron, on n'a pas le respect de tous ses équipiers. Puis il faut aussi un petit peu d'affect. Donc il faut finir par se faire aimer par ses équipiers. Et donc au début de l'année, c'était pas évident. C'est pas évident, hein, de rentrer dans une équipe en plus belge et composée d'un maximum de Flamands, même si nous avons deux Français dans cette équipe. Et ça a été difficile dans un premier temps. On l'a vu sur Tirreno-Adriatico, il n'était pas content. On l'a vu aussi à Milan-San Remo, il n'était pas content du tout par rapport au travail de son équipe, parce que dans son équipe il y avait une autre tête d'affiche, c'était Tom Bonen. Et vous savez très bien, je le dis tout le tour, on ne peut pas avoir deux cerfs, 10 corps dans le même troupeau. Donc, il y avait aussi Tom Bonen qui vivait très mal cette concurrence avec Cavendish. Et Tom Bonen, à un moment, a explosé. Donc il s'est mis complètement en retrait. Alors on va dire chute, maladie. Bon, mais tout ça, ça fait partie aussi du système. Et donc Cavendish a pris le pouvoir. Il a maintenant toutes les cartes en main. Et les équipiers, eh bien, ont laissé tomber Tom Boonen et se sont mis au service de Cavendish.
Et voilà,
c'est un peu.
Oui, Thierry.
Oui, je voulais rajouter, c'est un peu normal qu'au début d'une saison, tout nouveau, il y a un certain rodage qu'il y a eu, et pour que les équipiers lui fassent confiance, bon, la confiance, de toute façon, il s'est imposé tout de suite. Quand on a un Cavendish qui arrive dans une équipe, on sait qu'on va rouler pour lui et que généralement, si on l'emmène bien, ça gagne à la fin. Donc ça se passe relativement très bien de suite. Mais il y a les automatismes qui sont là à prendre, et c'est pour ça que ça met un peu de temps.
Ouais. Ça se passait pas si bien que ça avec Tom Boonen. Il suffit de reprendre quelques déclarations de Tom Boonen.
Ah ben oui, mais l'autre, il a vu arriver un coq dans sa basse-cour d'un seul coup, ça fait mal.
Il ne faut pas dire que ça se passait bien. Faut pas dire que ça se passait bien. Ça a grincé dans les gonds. Hein. Ouais.
Alors, quel
non,
genre
c'est normal,
de...
il y a deux grands chefs. Ouais. C'est normal.
Il y en a un qui doit tomber.
Il y en a un malade.
Alors, quel genre de mec est-il, notre ami Cavendish? C'est vrai qu'il a quand même une très mauvaise réputation. Je me rappelle qu'on avait fait des débats sur son caractère et sur sa façon de conduire les sprints il y a de cela quelques années. Mais
sur son comportement.
Son comportement, parce que
quand vous faisiez à une époque, rappelons-nous. Oui, mais enfin, quand tu faisais des bras d'honneur ou que tu crachais au pied des autres coureurs, il a d'ailleurs été rappelé à l'ordre, y compris par sa propre équipe.
Ouais. Alors, Sylvain Chavanel, qui est donc le coéquipier de Mark Cavendish, nouveau coéquipier de Mark Cavendish, c'est quel genre de mec le Cav?
C'est le meilleur sprinter actuel. Voilà, quand tout se passe correctement, il est pratiquement imbattable. Donc voilà. Mais c'est quelqu'un de très bien. Et puis avec Jérôme, on est là pour lui apprendre le français.
Voilà, ils sont là pour lui apprendre le français. Un autre français, justement, qui est chargé de sa garde, c'est son poisson pilote, c'est Jérôme Pinault. Plutôt son garde du corps, tiens. Ou peut-être sa nounou, d'ailleurs, Jérôme Pinault.
Sa nounou, je ne suis pas sa nounou. Je suis son équipier, son grégario, un peu à l'ancienne, on va dire. Je réponds à ses demandes. Voilà, après, je ne lave pas son linge, hein, mais... sur le vélo, je suis à son service. Je crois qu'il a... Il a conscience d'avoir la chance de m'avoir auprès de lui. Moi, j'ai conscience d'avoir une énorme opportunité d'être auprès de lui. Quand ça fonctionne comme ça, tout le monde est content. Voilà. Vous avez vu, même M. Lefebvre est très content. Donc voilà, on est tous très heureux. Allez, on va dire que c'est un soulagement parce qu'on commençait à, pas douter, mais on commençait à être impatient.
Voilà, et ça fait plaisir à toute l'équipe lorsque le sprinter, celui pour lequel on travaille tout au long de la journée et tout au long de l'année, remporte une victoire sur les routes du Tour, l'épreuve la plus médiatique et la plus belle au monde. Donc ils sont ravis, les coéquipiers français de Mark Cavendish. Ils seront peut-être encore ravis demain avec la deuxième étape au sprint, hein, probablement, oui. Avec l'arrivée à Montpellier. On en parlera tout à l'heure. Dans quelques instants, on va s'intéresser à un autre sprinter français, cette fois-ci Nasser Bouhanni, qui lui, à la différence de Mark Cavendish, est bien malheureux depuis le début de ce Tour. Malade, blessé, mis à terre à plusieurs reprises. Il traîne sa misère sur les routes de ce Tour, c'est Nasser Bouhanni. Faut-il qu'il continue ce Tour de France ou faut-il qu'il rentre à la maison? On en parle dans un instant avec Luc Leblanc qui vient de nous rejoindre, avec Cyril Guimard et avec Thierry Bourguignon. A tout de suite.
RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
19h30, nous sommes toujours ici à Marseille sur la ligne d'arrivée au terme de cette cinquième étape du Tour de France, remportée de main de maître par Mark Cavendish. Nous allons dans quelques instants aborder un autre sprinteur français, celui-ci Nasser Bouhanni, bien malheureux depuis le début de ce Tour de France. En attendant, un petit détour par Wimbledon. C'est vrai que l'Angleterre est ici à la fête avec Mark Cavendish. L'Angleterre un peu plus en difficulté avec Andy Murray, même si ça va beaucoup mieux pour Andy Murray et Eric Salio à Wimbledon.
Ah oui, je pense qu'Andy Murray a fait le plus dur parce qu'il était vraiment au bord du gouffre. Il était mené 2-0, 6-4, 6-3 par Verdasco. Il est revenu d'abord en remportant le troisième 6-1. Et il a eu des balles de break qui étaient vraiment vitales, cruciales à effacer au milieu du quatrième set. Puis finalement, il vient d'empocher ce quatrième set 6-4. Donc on vient de débuter le cinquième set. Murray va peut-être sauver sa peau.
Merci Eric, à tout à l'heure. Tu nous appelles si tu as d'autres infos et si la situation évolue. Allez, retour ici sur, on n'est pas sur l'île de Ré, ni sur l'île de White, ni sur l'île de Man. On est à côté du Château d'If, tout de même, à Marseille. Donc, au terme de cette cinquième étape, on a évoqué le cas Cavendish. Abordons maintenant un cas un peu plus douloureux, celui de Nasser Bouhanni, le sprinteur de la FDJ.fr qui faisait son entrée dans le Tour de France. C'est sa première grande boucle. Et malheureusement pour lui, ça se passe pas vraiment bien. Il a une nouvelle fois chuté. Aujourd'hui, on l'a vu également en difficulté tout au long de l'étape, retardé à l'arrière du peloton. Il souffre d'une gastro-entérite depuis 2-3 jours. Et en plus, à l'arrivée, il n'a pas eu de chance puisqu'il a été embarqué dans une chute. Non, qu'il ne provoque pas. Ce n'est pas lui qui la provoque. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais il est victime de cette chute et il est donc rallié à l'arrivée avec beaucoup de difficultés. On va l'écouter. C'était tout à l'heure dans le direct, Nasser Bouhanni au bout du rouleau.
C'est dur pour moi, et la chute en plus au sprint, et voilà, journée de merde. Ça fait 3 jours, j'ai une gastro, j'ai plus de force, et c'est vraiment dur pour moi. On verra les autres jours.
Voilà, au bout du rouleau, on sent presque les larmes qui sont toutes proches des yeux de Nasser Bouhanni. Georges Quirino nous a rejoint. Salut Georges.
Bonjour messieurs.
Alors, est-ce que tu as des nouvelles de Nasser? Parce que on l'a vu vraiment, on le sent en tous les cas dans ses propos, il est proche du bâchage, hein, de l'abandon.
Oh, je sais pas, on verra dans les prochains jours. En tous les cas, c'est vrai qu'on l'a vu très marqué quand il est arrivé au bus de la FDJ, déjà très énervé de voir beaucoup de caméras devant le bus. Il est un petit peu envoyé balader tout le monde. Bon, il découvre le Tour de France, Nasser Bouhanni, donc pas habitué à tout ce folklore médiatique. Il est rentré dans le bus, puis il est ressorti quelques minutes plus tard avec Gérard Guillaume, le médecin de l'équipe, qui l'a accompagné jusqu'au poste médical, bien obligé de l'accompagner parce qu'il avait bien du mal à marcher tout seul. Nasser Bouhanni qui boitait, il avait le cuissard déchiré au niveau du fessier gauche, également le mollet gauche brûlé. Il a eu du mal à marcer, il est arrivé jusqu'à ce poste médical où il est resté une trentaine de minutes, et puis il est sorti, il n'a pas vraiment voulu parler, mais c'est le médecin de l'équipe qui a donné de ses nouvelles. Quelques contusions seulement, pas de fracture, il devrait repartir demain, mais en tous les cas, voilà, on l'a revu ensuite, on l'a suivi jusqu'à sa voiture, on l'a vu prendre sa tête dans les mains. Beaucoup de déceptions, comme dit expliqué le médecin de l'équipe d'ailleurs. Ce sera surtout la déception qu'il va falloir évacuer maintenant pour Nasser Bouhanni.
Cyril, le rôle d'un directeur sportif, d'un manager est important évidemment dans ces moments-là, quand on est au bout du rouleau, qu'il faut essayer de continuer. Merci Georges, qu'il faut essayer de poursuivre l'aventure. Est-ce que Marc Madiot justement et ses directeurs sportifs ont intérêt à le pousser, à continuer, ou est-ce que quand on en arrive à un tel point qu'on est vraiment poursuivi par la malchance, il vaut mieux se dire bon, on va pas le griller, on va le faire arrêter. Qu'est-ce que tu conseillerais toi? Je sais que tu conseilles souvent Marc. Même s'il a plus besoin de conseils maintenant.
Qu'est-ce que tu faisais?
Oui.
Donc bon, alors c'est vrai. Bon, le médecin a dit quelques contusions. Il en a quand même quelques-unes, pas toutes au même endroit, mais il en a un peu partout parce que la chute qu'il a prise est quand même une chute très violente. Il a bien tapé, il a bien roulé, donc il doit être râpé des deux côtés, devant et derrière. Non, il n'y a qu'une seule chose d'abord, dans un premier temps, bien sûr, c'est d'accompagner dans la souffrance le coureur, mais ensuite c'est le médecin qui décide. Le directeur sportif, il a d'abord un médecin, il est là pour ça, il est payé pour ça. C'est donc le médecin en son âme et conscience qui va dire si il est en capacité de poursuivre ou s'il n'est pas en capacité de poursuivre. À partir du moment où il n'y a pas de points stratégiques touchés, c'est-à-dire articulation, déchirure musculaire ou fracture, bien sûr, tant qu'il n'y a que des brûlures, des hématomes, vous pouvez repartir. Aller au bout de l'étape, ça c'est pas évident, parce qu'après, vous savez, on mesure véritablement les séquelles d'une telle chute, non pas le lendemain, mais surtout le surlendemain, parce que les courbatures vont s'augmenter pendant plus de 48 heures. Alors il peut éventuellement passer l'étape de demain, l'étape de Montpellier. Est-ce qu'il pourra arriver à Albi?
Il n'y a pas que les courbatures, il y a aussi la gastro, et ça vous retire toutes les forces. C'est presque la gastro qui est plus importante.
Les deux, la gastro, il va peut-être plus l'avoir.
Au bout d'un moment, ça s'arrête, ce genre de truc.
Ça va s'arrêter. Mais non, il y a Bon, on sait sur une étape comme demain, dans la mesure où il n'y a pas de col, il n'y a pas de difficulté sur le parcours, dans les roues au milieu du peloton, dans les abris, dans l'aspiration, même si dans le final ça roule trop vite, il peut décrocher, même s'il perd 10 minutes, c'est pas un problème, il peut passer l'étape de demain. D'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, il a été en difficulté à une partie de l'étape.
Il s'est refait un peu la cerise à un moment
et
donné.
Et puis, dans la nouvelle difficulté après le troisième classement de la montagne, eh bien, il est passé. Et j'ai presque envie de dire, c'est dommage qu'il soit passé, parce que s'il n'était pas passé, il n'aurait pas fait le sprint, oui, il n'aurait pas chuté. Oui, oui. Mais vous savez, c'est comme les sprinters, quand ils sentent, quand ils voient la flamme rouge du dernier kilomètre, bon, il y a la chair de poule qui vient partout, on a l'impression qu'on va soulever 300 mm-hmm. kilos. Ouais. Et malheureusement pour lui, il y a eu la chute derrière. Mais c'est surtout après-demain qu'il faudra passer dans l'étape d'Albi, qui n'est pas obligatoirement très simple.
Plus casse-patte. Lucho, tu lui conseillerais continuer quand ça s'embarque mal comme ça, un Tour de France, qu'on voit qu'on a la guigne, la malchance qui s'abat sur vous, vous êtes baissé de toutes parts, que vous n'avez plus rien dans le ventre, plus de force, plus de mental, ça sert à quoi de continuer?
Non, mais la gastro, ça dure 3 jours. Moi, j'ai eu la gastro en 96, donc je sais de quoi je parle.
T'en as pas eu depuis, ça va, t'en sors pas mal.
Il faut résister pendant 3 jours. Après, ça passe. Bon, après, c'est vrai qu'il y a la question chance sur le tour pour Boigny, qui n'arrête pas de chuter, mais bon, il est quand même entouré psychologiquement par son médecin Gérard, par Marc Madiot, par l'encadrement aussi des soigneurs, des mécanos, et même de ses copains coureurs. Donc,
c'est un vrai travail d'équipe.
C'est un vrai travail d'équipe. Et donc, il se doit, par rapport à tout ce monde-là qui est autour de lui, de continuer le tour. Il va le continuer, même s'il souffre et qu'il a dit tout à l'heure, c'est une journée de merde pour moi aujourd'hui. Ouais. Mais
Thierry,
ça va pas durer.
On n'abandonne pas le Tour de France comme ça. Toutes les autres courses, on peut s'arrêter quand on va pas bien, mais le Tour de France, faut vraiment se faire violence, essayer d'aller jusqu'au bout, surtout quand c'est le premier.
Je pense que si ça n'avait pas été le Tour de France, il aurait déjà bâché, je pense. Avec la gastro plus la malchance qui s'acharne contre lui, une autre course, on l'aurait vu peut-être abandonner. Alors que là, il va s'accrocher. Sûr, c'est si la gastro lui laisse un peu de répit. Et comme dit Cyril, demain c'est une étape de transition, on va dire, dans les roues, ça peut passer. Ensuite, ça risque d'être lui, il n'est pas à 100% de ses possibilités au pied des Pyrénées, ça c'est clair.
Ouais.
Et là, ça sera une autre paire de manches.
Ah oui, il va falloir
connaissant Nasser, il va s'accrocher, et c'est un têtu, c'est un sprinter, et il va se dire qu'en dernière semaine, il y a peut-être des coups à faire. Voilà. Encore.
Tiens, Olivier nous appelle au 32-16, il nous appelle de l'Hérault, nous serons demain, puisque l'arrivée de la 6e étape sera jugée à Montpellier. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à tous.
Bon, salut. Alors Olivier, pas de bol quand même pour Nasser Bouhanni. Est-ce qu'il faut qu'il continue le tour?
Ouais, mais là c'est sûr qu'il cumule, hein, avec sa gastro, puis évidemment des chutes qui s'ajoutent à ça, ça aide pas à la récupération aussi, puisque quand on chute, on dort forcément moins bien, et puis les jours s'enchaînant, après la fatigue s'accumule, donc je pense que oui, forcément il doit continuer ce tour, hein, parce qu'un Tour de France, comme le disait Thierry il y a quelques instants, ça ne s'abandonne pas, on essaie d'aller le plus loin possible, et le but est d'arriver à Paris, quoi.
Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'il a pas de bol quand même, pas de réussite non plus, hein, sur ce Tour de France. Mais bon, c'est son premier tour, hein, il faut apprendre aussi.
Tout à fait. L'inexpérience d'un coureur jeune comme ça ne favorise pas aussi, ne le favorise pas forcément dans ses performances. C'est pas évident. Alors quand il y a la guigne un petit peu qui se met en travers de sa route, forcément c'est encore plus compliqué.
Merci Olivier, en tous les cas, pour cet appel. Merci de nous suivre et de venir intervenir. N'hésitez pas, hein, à composer le 32-16 pour nous parler de tout ça. Cyril, Boigny, qui n'est pas responsable de la chute, faut bien le préciser, puisqu'il est venu taper l'arrière d'un coureur qui s'est relevé. C'est ça, c'est ce qui s'est passé, l'explication de la chute.
Oui, alors, vous avez les coureurs quand même, comme on dit, bon, il y a les coureurs quand même jusqu'aux 200 mètres, entre autres Cavendish, mais aussi ceux qui emmènent Greipel, ceux qui emmènent Peter Sagan. Et ce coureur se met à 100%, et quand il explose, il s'écarte légèrement.
Donc il coupe son allure. C'est-à-dire qu'il passe de 70 à l'heure à...
Il devient un rond-point mobile.
Il se relève carrément et puis.
Il se relève parce que
ça, c'est autorisé de faire ça.
Normalement non. Vous devez à ce moment-là, si vous emmenez, vous devez carrément vous écarter. Alors que là, les coureurs s'écartent et ils reviennent au milieu du peloton. Et ça, c'est très dangereux. À une époque, il y a eu des sanctions qui ont été prises et depuis quelques années, il y a plus de sanctions et il y a quand même de nombreuses chutes qui sont provoquées par ce coureur qui devient un rond-point mobile.
Thierry, il faudrait, à ton avis, justement, sévir et que les commissaires fassent preuve d'un peu plus de sévérité dans ce genre de choses et pour ce genre de comportement. C'est vrai que c'est la santé des coureurs qui est en jeu. Et je crois d'ailleurs que Maxime Bouet, que Pierrick Ten a rencontré tout à l'heure, était furieux justement par cette situation. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser faire ça, comme ça.
Ah, ça a toujours existé et je me rappelle le mocassin se battre mocassin. À l'arrivée à cause de ça. Et oui, à Paris-Nice, sur Paris-Nice, une arrivée où un Allemand, après avoir bien lancé son s'était relevé, mais avait... Moi, je pense qu'il y en a certains qui le font un peu exprès pour gêner les adversaires. Et là, c'était en l'occurrence vrai. Et Fred avait pas pu encaisser ça sans rien dire. Et dès la ligne passée, il avait mis son poing sur la tête.
Ah ben bon, c'est bien.
Mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu sanctionner, puisqu'il y a un règlement et il faudrait qu'ils s'écartent complètement et qu'ils arrêtent de faire îlot directionnel mobile au sein du peloton, ce qui est très très dangereux pour les autres.
Ouais. Oui, alors
Nasser aurait dû, avec la sagesse, ne pas disputer ce sprint puisqu'il était faible, mais en tant que sprinter, il veut toujours se mêler, il se dit que peut-être il peut faire quelque chose, c'est son rôle, mais c'est vrai que la sagesse aurait dû le mettre à l'arrière du peloton laisser le temps au temps.
Mais il a envie de réussir, c'est son premier tour.
Il a envie de bien faire,
on peut pas lui reprocher ça, évidemment, même s'il était peut-être pas au niveau aujourd'hui pour disputer ce sprint. On va continuer dans quelques instants, toujours avec Cyril, toujours avec Lucho et avec Thierry. On va s'intéresser évidemment au pari aujourd'hui. Cavendish, il y en a certains qui l'avaient donné, pas tout le monde, mais on va voir si les classements
ont changé. La seule jeune femme.
Exactement, c'est Virginie. Mais bon, Virginie, elle est tellement fan de Mark Cavendish qu'elle le donnerait tous les jours, même dans une étape arrivée en montagne. On en parle dans un instant en tous les cas, et puis on va s'intéresser à l'étape de demain. Là aussi, c'est plat. Et peut-être que Cavendish va nous faire bis repetita demain. 19h44, l'intégral sport revient dans un instant, toujours en direct de Marseille, où a été jugée tout à l'heure l'arrivée de cette cinquième étape.
RMC, intégral sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
Toujours en direct de Marseille. Mais demain, nous prendrons la direction de Montpellier. On va parier dans un instant à évoquer cette sixième étape qui nous attend demain entre Aix-en-Provence et Montpellier. Auparavant, comme tous les soirs, je vous offre le livre Le Contour de Serge Lager et Claude Maignan. Magnifique livre sur les Tours de France, les 100 Tours de France. Toutes les anecdotes, tous les palmarès, évidemment, tous les chiffres sont dans Le Contour. Pour tenter de gagner votre livre, vous envoyez tout de suite le mot Tour, T-O-U-R, par SMS au 7-32-16. Bonne chance et nous accueillons Benji. C'est l'heure des paris.
Les Paris RMC Tour de France.
Monsieur Benji, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors, aujourd'hui c'est une hors catégorie qui a donc remporté l'étape du Tour.
Oui, heureusement à 5 euros près, Virginie Fulpin prenait le maillot jaune à Luc Leblanc quand même, messieurs.
Ah oui, quand même.
Comment ?
À 5 euros près, elle a failli.
On va
la faire entrer dans le palmarès.
Elle arrive à l'instant même, Virginie, avec le sourire aux lèvres.
On l'intègre tout de suite dans notre bande de parieurs.
Si elle bat
Cyril, Thierry et Lucho.
Non, Virginie, tu restes tranquille.
Il a très très peur pour son maillot jaune.
C'est la peur qui fait parler, voilà.
Il est très très inquiet. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, Virginie est capable de parier sur Cavendish, même pour une étape avec arrivée à l'Alpe d'Huez et même double ascension de l'Alpe d'Huez. Elle est tellement fan de Mark Cavendish qu'elle est capable de tout. En tous les cas, bravo Virginie. Nous, on a voulu.
Je prenais ça bien, ça me fait plaisir.
On n'est pas.
Non, mais je suis désolé, ils sont un petit peu mauvaise langue parce qu'ils n'ont pas assisté tout à l'heure à notre entretien. Sinon, ils ne parleraient pas comme ça. Ils ne savent pas que tu sais que, par exemple, le Duc a gagné plus d'étapes que le CAV.
Exactement.
Ah oui.
25. Et non pas 24.
Mais plus pour longtemps. Il va se faire passer sur le fil bientôt, notre ami.
Donc elle connaît peut-être mieux le vélo que nous.
Bah tiens, elle va se gêner. Elle va se gêner. Elle adore. Elle a surtout son bob cochonou sur la tête tous les jours à la rédaction.
On fait de la pub.
Ah oui. On peut de temps en temps. Alors Benji, donc tu nous rappelles le classement tout de même de ces paris RMC. Luc reste en tête, mais son avance se réduit.
Luc Leblanc toujours en tête du maillot jaune, maillot vert, mais maintenant que Virginie a intégré le classement, il n'y a pas beaucoup d'avance au niveau du maillot vert, et puis pour le maillot jaune, ça joue à 5 euros.
Mais comment ça se fait parce qu'il avait, une plus grosse cote quand même, Kittel.
Oui, mais je te rappelle que tous les jours, tu perds 10 euros, Luc, quand tu n'as pas le bon pari. Donc,
Avant
eh oui.
Je reste pas sur 60 euros.
Sinon, c'est trop facile.
Non, mais je rêve. Alors, demain, donc c'est la 6e étape. Benji, entre Aix-en-Provence et Montpellier, on va en parler dans quelques instants. Donne-nous d'abord les principaux favoris de cette 6e étape. J'imagine que le nom de Cavendish revient en force après son premier succès aujourd'hui.
Ouais, il est favori et largement même 1,65. Du coup, ceux qui veulent jouer quelqu'un d'autre que Cavendish peuvent gagner énormément d'argent, puisque le deuxième favori c'est Greipel, mais la cote est quand même à 6. Après, c'est Marcel Kittel à 9,50. Alors, je vous disais avant les paris que le 5 c'était le chiffre porte-bonheur de Cavendish. J'ai regardé un petit peu les stats. Le 6 c'est le chiffre porte-bonheur de Sagan, et comme la cote est à 16, ça sera mon pari Peter Sagan.
Peter Sagan demain. D'accord. Peter Sagan pour Benji, ça fait beaucoup rire Thierry. Tiens, vas-y, au lieu de rigoler, toi. Vas-y, donne-nous ton vainqueur demain.
Je me marre parce que j'avais dit Cavendish. J'avais dit Sagan aujourd'hui. Demain, par contre, je dirais Cavendish parce que avec une étape toute plate comme ça, je ne pense pas que ça puisse échapper, à moins d'une échappée au long cours, mais qui aille au bout, je n'y crois pas trop.
Ça manque de capitaine dans les échappées au long cours.
Oui, on a vu aujourd'hui.
Ouais.
C'était grandiose.
Donc, tu nous donnes Marc Cavendish avec une petite cote, mais bon, on sait jamais. De temps en temps, il faut se refaire un peu la santé, hein, Thierry. Hein, parce qu'on peut pas dire que toi et moi, on soit au top depuis le début de ce Tour de France. Mais on attend notre heure.
Si on parie autre chose, on est sûr de perdre.
Ouais, exactement.
Donc,
Lucho,
petit bras.
Lucho d'abord, et on donnera la parole au druide ensuite.
Écoute, je vais pas prendre de riz, je vais mettre Cavendish.
Ah ouais, d'accord. Enfin, tout le monde. Ouais, ouais. Là, c'est quand même, c'est un changement de situation, un changement de stratégie totale de la part de Luc Leblanc. L'an dernier, il partait dans tous les coups. Cette fois-ci, mais il est d'un classicisme.
Je maîtrise.
Confondant, désolant quoi. C'est pas possible. Non, maintenant t'as peur de Virginie. De toute façon, elle va parier Cavendish demain.
C'est une tactique. C'est tout.
Ouais. Bon, le druide.
C'est vrai que jouer Cavendish, c'est une petite sécurité, voire une grosse sécurité quand on est en tête. Mais quand on n'est pas en tête, il faut prendre un peu plus de risques. Donc moi, je jouerai Greipel.
Ouais. Et ben moi, je vais suivre le druide parce que je suis dans sa roue. Là, j'espère un jour que ça va arriver.
Mais 1,65,
c'est ça, Benji. Ça vaut rien, quoi. Bah, je préfère perdre encore 10 euros.
0, c'est encore moins bien.
Je préfère en perdre 10 que de gagner combien, 60 centimes, c'est ça? Non, pas grand chose en tous les cas. Je suis nul en maths. Très bien. Virginie, elle est toujours là? Non, elle est plus
là. Bien sûr qu'elle est là. Écoute. Là, je peux pas faire autrement. Hein. Puisque selon toi, je parie sur lui, même à l'Alpe d'Huez. Là, évidemment, sécurité et Brit Flair. Marc Cavendish,
très bien. Et ben voilà. Donc, ça sera Marc Cavendish demain.
Pour tout moi, le monde, Virginie, le peloton groupé. On va pas rejoindre demain soir, puisqu'on a joué le même coureur. Donc, merci.
Et pour un fois, elle s'est trompée de maillot, parce qu'elle a mis le maillot rose de. C'est le Tour d'Italie, Virginie.
C'est ça.
Mais non, mais elle apprend. Elle est en apprentissage Tour de France. L'année prochaine, elle sera avec nous sur les routes du Tour.
Virginie,
ça va la changer.
Oui.
Mets-toi dans la roue du druide et tu vas passer.
Évite la chute.
Le maillot jaune.
Mais bien sûr, je vais passer le maillot jaune.
Très bien, merci Benji.
À demain.
Virginie, on te retrouve dans un instant. On va quand même étudier le profil de cette étape dans un instant.
PMU. PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Cyril, rapidement, à quoi ça ressemble? Donc c'est beaucoup plus plat qu'aujourd'hui, hein, cette étape entre Aix-en-Provence et Montpellier. C'est plus court également. Ça part à 13h. C'est vraiment l'étape type pour les sprinteurs demain.
Type, vous savez, c'est la Camargue. La seule difficulté qu'il pourrait y avoir, c'est du vent, mais apparemment, on ne nous annonce pas des vents énormes, ce qui arrive souvent dans ces cas-là. Il y a une chose peut-être qui va non pas surprendre les coureurs, parce qu'ils savent ce qui les attend. On va avoir des températures à plus de 30 degrés.
Ah, effectivement, la canicule,
mais attention,
la chaleur qui arrive.
À partir de Beaucaire, hein, Christophe.
Ouais,
le vent.
Ça peut être dangereux. Et les moustiques aussi, il faut éviter les moustiques.
Les cigales.
Merci, messieurs. On retrouve Thierry, évidemment, et Lucho, qui reste en compagnie, en bonne compagnie avec Virginie, qui est là, prête à parler de Cavendish. Voilà,
tu vas très bien aller pendant une demi-heure. Voilà. On va continuer effectivement à parler du Tour de France et de cette cinquième étape, de la victoire de Cavendish avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Et puis vous, au 32-16, évidemment, vous nous appelez pour poser toutes vos questions, pour faire vos remarques à notre Dream Team. Et vous pouvez aussi utiliser Twitter avec le hashtag RMC Tour. À tout de suite.